dans le fond, elle a dit, tu sais, c'est pas vrai qu'on va se faire abattre, on va montrer de la résilience. Puis en un mois, à travailler hyper fort avec les différents teams, on a réussi à lancer des masques. Fait que c'était une initiative menée par Camille à trouver, bon, OK, avec Mélissa pour développer les patrons. Ensuite de ça, pour faire le shooting, l'intégrer en ligne, pour trouver les fournisseurs de tissus, d'élastiques. Fait que on sort des masques, on en vend pas loin de 50 000 unités.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 69e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement près de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Bâtir une marque de vêtements peut sembler quelque chose assez simple à faire vu de l'externe, mais bâtir une marque de vêtements connue et reconnue est une toute autre histoire. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Anthony Vandramme, président et cofondateur de l'entreprise Poche et Fils, un commerce en ligne qui opère dans le milieu du textile à Montréal. Anthony est venu nous livrer aujourd'hui un entretien extrêmement honnête dans lequel il nous raconte l'année 2019 très complexe que l'organisation a vécue avant de connaître une année record en 2020. Anthony nous dit également qu'à partir d'avril 2021, il va laisser le poste de directeur général à une de ses employées clés. Le 69e épisode d'Hypercroissance est donc une discussion très fascinante si vous voulez en apprendre un peu plus sur les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur. Sans plus attendre, ma discussion avec Anthony Vandramme. Anthony Vandramme, tu es président et fondateur de l'entreprise Poche et Fils, une entreprise dans le domaine vestimentaire qui est en opération depuis plus de 6 ans maintenant. Au cours des années, vous avez été capable de faire croître votre entreprise continuellement en utilisant une approche marketing colorée qui vous a permis de bâtir des communautés de centaines de milliers de personnes sur les médias sociaux. Anthony Vandramme, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir, Antoine.
Anthony, l'objectif de la discussion est de savoir les différentes techniques que vous avez utilisées en tant qu'organisation pour percer un marché qui, on va se le dire, est ultra compétitif. Mm-hmm. Mais avant d'en discuter aujourd'hui, pourrais-tu nous dire et pourrais-tu partager à l'audience d'Hypercroissance comment s'est déroulée la fondation de Poche et Fils?
Ouais, ben c'est ça, c'est pas le classique plan d'affaires. On écrit où est-ce qu'on s'en va, on lève du capital ou on demande aux banques de nous financer. C'est complètement l'inverse, en fait. Moi, j'étais aux études à temps plein à HEC Montréal, jouais au football pour les Carabins de l'Université de Montréal. Puis, j'avais pas vraiment d'opportunité d'avoir un sideline ou une job parce que études à temps plein plus entraînement 30-35 heures semaine, c'était difficile d'avoir du temps. Fait que c'est ça, un jour, la mère d'un de mes amis, dans le fond José, la mère des bons chums à moi de Varennes d'où je viens, elle avait posé une poche sur un t-shirt. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça cool. Elle a dit « Ben Anto, va t'acheter des t-shirts, va t'acheter du tissu au Club Tissu, puis je vais t'en faire. » Fait que là, j'en portais avec mes chums, j'en portais à l'école dans le vestiaire de foot, puis je commençais à prendre des petites commandes. Jusqu'au jour où ça devient un peu plus gros, je pars une page Facebook. C'était un peu bric-à-brac, là. Les gens nous écrivaient par Messenger. On disait « OK, on se donne rendez-vous au Burger King à 9h ». Tu sais, c'était mon packaging, c'était un sac de glace, les sacs de glace de physio. Tu sais, j'allais pogner ça au physiothérapeute des Carabins, puis j'emballais mes t-shirts là-dedans. Fait que bref, c'était un peu... C'est la demande qui nous a tiré jusqu'au jour où je décide, bon, ben regarde, j'étais rendu à la maîtrise à ce moment-là, je lâche la maîtrise, je lâche le foot, puis je me lance à fond là-dedans avec, à l'époque, Nicolas, le cofondateur, qui est un de mes partners de football aussi. Fait que c'est ça, c'est pas parti, comme je disais, du classique plan d'affaires, là, puis en même temps, tu sais, c'est une idée que je suis sûr que si tu t'assis, puis tu consentes à dire, quel business que je parle, les chances sont minces que tu dises, oh, on va mettre des poches sur des t-shirts, tu sais, c'est comme, C'est pas l'idée révolutionnaire ou bien qui va sauver le monde, mais nous, en tout cas, ça nous amusait à ce moment-là, puis les gens en voulaient, fait que c'est ça, c'est de même que ça partit, en fait.
Puis je suis curieux, ton background scolaire, est-ce que tu étudiais dans le domaine des affaires, dans le domaine du marketing? Est-ce que c'était...
Ben moi, dans le fond, je suis rentré à l'Université de Montréal en maths au début, ma première session. J'avais quand même super facilité dans ces matières-là. Finalement, pour me rendre compte que c'était pas tant ça mon intérêt, fait que j'ai traversé l'autre bord de la rue à HEC, où là, tu fais un tronc commun puis tu touches à pas mal toutes les fonctions d'une entreprise. J'ai fait, une année, j'étais parti plus pour m'aligner vers le marketing. Finalement, j'ai pris une tangente vers la finance. Puis ça, j'ai quand même aimé ça, tu sais, apprendre à monter des états financiers, les lire, surtout les comprendre, les analyser. Voir dans des cours qui étaient gestion financière des PME, il y avait beaucoup de sujets comme des enjeux de liquidité, des enjeux de profitabilité ou de rentabilité. C'était intéressant. Puis après, pour continuer, c'est ça, je commençais la maîtrise en stratégie d'affaires, puis je faisais le cheminement pour être CFA, le titre d'analyste financier. J'avais fait le premier examen, un examen de 6 heures de choix de réponse. C'est hyper sérieux, il y a des brigadiers qui se promènent là pour checker si tu triches, pour moi, c'était zéro. Tu sais, moi, j'étais le gars à l'école qui dérangeait, qui déconnait, que si j'avais une présentation orale, c'était là le moment de shiner. Puis là, on se ramasse dans une salle où c'est silence, où c'est 6 heures de temps, c'est stressant. Moi, j'étais dans le fond, puis je faisais des bruits de chat pour essayer de divertir le monde. Tu sais, c'est n'importe quoi. Tu sais, t'as 24 ans, puis t'es en sous de cravate, mais tu fais des bruits de chat. Fait que, tu sais, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. J'ai passé quand même le premier examen, mais j'ai pas continué là-dedans. Là. Fait que...
C'était pas ta branche, on va dire ça de même.
Non, exactement.
Mais bon, on va revenir un petit peu, on l'a dit. Si on s'assoit et on pense à une idée d'entreprise, on va pas nécessairement penser à l'idée de poche et fils. Mais... Quand même, vous êtes arrivé à créer une organisation dans un marché qui est excessivement compétitif. Et moi, je crois que c'est grandement dû à la manière que vous avez commercialisé et que vous commercialisez toujours vos produits. Donc, vous avez un marketing qui est excessivement drôle sur les médias sociaux. Vous adaptez très bien aux différentes plateformes. Vous avez une approche plus corporate, mais drôle sur LinkedIn. Vous avez une approche par la suite sur Instagram qui suit très bien les tendances de la plateforme également. Moi, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu comment vous arrivez à avoir ces initiatives marketing-là. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de l'interne? Est-ce que vous travaillez avec des gens de l'externe? Comment vous arrivez avec ces campagnes-là qui, très souvent, sont devenues virales? Là?
Ben, mettons qu'on a toujours essayé de faire le plus possible à l'interne. Tu sais, au départ, bon, on était deux. C'était plutôt moi qui gérais tout ce qui était marketing, image de marque, communication. Encore une fois, pas mon background d'études, mais... J'ai toujours été un peu un raconteur, un farceur, fait que ça le faisait. Puis même à ça, quand t'arrives avec des lunettes différentes, ben tu vois d'autres façons de faire qui sont peut-être bonnes finalement, tu sais, versus l'expert qui lui connaît la seule façon de bien faire, ben le non-initié, il en connaît 10 000 parce que, tu sais... Si tu me demandes, moi, je sais pas patiner, fait que si tu me demandes de patiner, je vais trouver 80 façons parce que je sais pas, tu sais, il me demande à Sidney Crosby, il connaît la seule façon. Bref. Mais notre approche pour les réseaux sociaux, tu sais, c'est de se dire, bon, les gens sont là pourquoi? Déjà, moi, quand je les consomme, je suis là pour m'informer ou bien pour me divertir. Fait que une fois qu'on t'a informé qu'on met une poche sur un t-shirt, ben, tu sais, la capsule informative est pas mal finie. Fait que, on s'est dit qu'on allait essayer de bâtir une communauté autour du fun, autour de pas se prendre au sérieux. Comme t'as dit, qu'on adapte sur les différentes plateformes, qu'on essaie de subvertir. Puis, fait que la majorité des concepts, de l'idéation, de la rédaction, c'est fait à l'interne. Puis après, pour ce qui est plus du placement ou de la production, ben là, on passe à l'externe. Fait qu'on travaille avec l'agence numérique Mint qui va faire tout ce qui est les Facebook, Instagram ads. On va travailler avec des gens en production pour que ça soit des shootings photos ou du shooting vidéo. Mais sinon, je dirais que 80% de tout ce qui est contenu est fait à l'interne.
Intéressant. Puis, est-ce que tu attribues le succès et la croissance de Poche et Fils grandement à votre présence sur les médias sociaux?
Ben je dirais que oui, là, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, puis comme ça qu'on continue d'engager la communauté qui suit ce qu'on fait. Tu sais, après, c'est sûr, on a eu la chance de, au début, d'avoir un gros coup de main de, tu sais, le Québec, c'était un petit monde, puis l'aide et les gens sont prêts à aider les, ben, en tout cas, on a senti que les gens étaient prêts à aider une jeune entreprise d'ici. Fait que, tu sais, que ce soit les entrevues radio, télé, ou bon, évidemment, je crois qu'on pourra pas ne pas en parler, mais notre passage à l'œil du dragon qui avait été un super gros
ben oui.
Tremplin. Mais oui, clairement que les réseaux sociaux, ça l'a été, puis ça fait encore partie du core de ce qu'on fait. T'as dit, tu sais, c'est une industrie hyper compétitive. Je pense que c'est dû à ce qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Là. N'importe qui, demain matin, veut se partir une marque de vêtements peu, quand même facilement, avec peu de moyens. Fait que c'est ça. Fait que comment tu te différencies? Tu sais, le besoin de se vêtir, ça fait un Christy de bout qui est réglé. Là, tu sais,
ben oui.
Même quand Zoom Master, tu peux même te demi-vêtir puis t'es correct. Là, tu sais, là, je te vois en veston, mais je sais pas qu'est-ce que t'as en dessous. Mais... Fait que c'est ça, fait que faut que tu te différencies autrement, fait que je pense que c'est en créant autre chose, c'est en créant de quoi de... C'est ça, nous, je pense que c'est vraiment le côté ludique, humoristique. Là.
Exact, c'est ça qui fait votre distinction, votre positionnement. Puis bon, t'as parlé un petit peu du sujet, l'œil du dragon, donc l'entreprise a été fondée en 2015, bon. L'entreprise est fondée en 2015. En 2016, maintenant, vous arrivez à l'œil du dragon et ben, vous avez fait un méchant show quand vous êtes allé. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, allez faire une petite recherche sur YouTube. Vous allez voir la présentation de l'équipe chez Poche et Fils a été assez drôle quand ils sont allés à l'œil du dragon. Ils ont fait une blague au dragon comme quoi qu'ils allaient montrer leur poche à la télévision. Puis là, bon, par la suite, ils sont arrivés, ils ont fait leur pitch de vente. Qui sait? Traduit du moins à la télé, et je dis bien du moins à la télé, avec une offre acceptée de Mitch Garber et Martin-Luc Archambault. Est-ce que c'est allé plus loin cette histoire-là ou pas du tout?
Ben, on n'a pas donné suite en fait, c'est ça. Fait qu'on a accepté à la TV, puis ensuite de ça, ben, c'est pour les gens qui connaissent un peu moins les ce qui se passe derrière ou en coulisses, ben là, après ça, tu sais, t'as un due diligence, puis ça peut durer 1, 2, 3, 4 mois, pour certains plus longtemps, d'autres plus court. Hein. C'est sûr, en fait, c'est évident parce que ces personnes-là, ils ont des investissements dans plusieurs entreprises. Ils ont un horaire du temps très chargé, fait que ça va pas à la vitesse nécessairement que nous on veut. Quand toutes nos billes à nous sont mises dans une seule entreprise, puis c'est ça qu'on pense jour et nuit, tu sais. Fait qu'arriver à 2, 3, 4 mois plus tard, ben on s'est juste rendu à une évidence où ce qu'ils offraient était moins notre réalité à ce moment. Nos besoins, en fait, ça représentait pas nos besoins à ce moment-là. Fait qu'il y avait juste c'était un commun accord, ça fonctionnait pas entre les deux parties. Fait que, mais tu sais, ça a été hyper enrichissant, là. L'émission, je me rappelle, c'est ça, comme je disais tantôt, on n'a pas un produit révolutionnaire, on va pas sauver le monde. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Faut arriver puis faire un coup de pub. C'est de la télé, là, tu veux que ça soit vu. Fait que le gag d'être en robe de chambre puis de dire qu'on veut se montrer la poche live à TV, d'ouvrir puis tu vois le t-shirt, ça l'a fait réagir. Après ça, si t'es pas capable de backer tes chiffres puis comment que la business, ça marche, tu vas te faire... Tu vas avoir l'air fou à TV, fait que ça peut avoir l'effet contraire. Fait que nous, tu sais, en bon joueur de football, on a fait du game tape, là. J'ai checké 5 saisons de 12 épisodes, de 3-4 pitchs par épisode. J'ai tout checké, en fait. Je savais, tu sais, t'étudies les tendances, qui pose quelles questions, qu'est-ce qui a bien marché, qui s'est fait coincer puis il a pas su quoi répondre, qui s'est fait coincer puis il a su quoi répondre. Quelle question qui revient 100% du temps? Fait que c'est là, t'es sûr de t'en faire poser, prépare-toi. Fait que on savait qui allait répondre à quoi dans notre équipe, on savait quels chiffres on devait maîtriser. Puis finalement, ben oui, on a fait une niaiserie en rentrant, mais on montrait aussi le sérieux derrière. Fait que ça, c'est un peu le plus bel exemple de Poche et Fils, je pense, c'est que c'est sérieux de pas se prendre au sérieux, dans le fond. C'est que oui, on est cabochon un peu, mais c'est pensé derrière.
Tu avais une business
derrière.
Qui tient la route, là.
Ouais, c'est exact. Tu sais, à ce moment-là, bon, ça faisait un an qu'on était en affaires. On avait vendu 10 000 t-shirts pour la première année, ce qui était quand même bien. On vendait peut-être pour 1 000 $ par jour. Nos meilleures journées, c'était 1 000 pièces de t-shirt. Fait que, tu sais, c'était ça notre réalité. On arrive à l'émission, est diffusée à 8 heures le soir, puis de entre 8 heures et minuit. Fait qu'en 4 heures après l'émission, on avait vendu pour 30 000. Fait que c'était un mois de vente. Un mois de vente en 4 heures, c'était fou. Puis là, après ça, bon, c'est sûr que la croissance a continué pour les mois qui ont suivi. Ça nous a donné de la couverture, ça nous a ouvert des portes, rentré chez Simons, etc. Fait que ça a été pour vrai un super beau tremplin pour l'entreprise.
Vous avez été capable de surfer là-dessus pendant combien de temps environ, Anthony?
Ben, c'est difficile à dire, hein, parce qu'on s'en fait parler encore aujourd'hui. Ah oui, oh, wow. Je me souviens de votre passage au Dragon. Fait que c'est tough, puis après ça, c'est comme une boule de neige, là. Fait que, tu sais, c'est difficile de voir. Je pense qu'on a surfé là-dessus au moins 2 ans, mais tu sais, après, c'est que ça a ouvert d'autres portes.
Bien sûr. Intéressant. Ben, j'imagine. Puis vous êtes le type d'entreprise parfaite pour une présence à l'œil du Dragon. 100%. T'sais. Les entreprises qui vendent en ligne pour un marché de masse. Et tu peux pas avoir un meilleur profil d'entreprise pour bénéficier, on l'espère, d'un investissement des Dragons. Des fois, on l'espère pas. Hein. Il y en a des entreprises qui vont là-bas uniquement pour faire un coup de marketing. Puis des fois, ben, finalement, l'investissement, tu l'as sans même avoir d'investissement, hein, avec toutes les ventes qui rentrent derrière.
Non, non, c'est ça. J'ai un produit qui s'achète très bien. Tu sais, nous, on pouvait faire des ventes directement durant l'émission.
Ben oui.
Tu sais, versus quelqu'un qui arrive avec plutôt un projet qui est pas encore développé ou un produit qui demande un peu plus de réflexion avant de décider si on l'achète ou pas. T'sais.
Intéressant. Parlons un petit peu d'investissement. On vient de parler de l'œil du dragon, donc je trouve que ça fait du sens d'arriver à ce point-là. Donc, vous êtes quand même dans une industrie où est-ce que vous avez besoin d'un certain capital, surtout quand vous grandissez, hein? Donc, vous avez une certaine croissance, vous devez acheter plus d'inventaire, vous devez sûrement peut-être engager plus d'employés pour être certain que le produit soit livré à temps. C'est quoi votre vision, vous, par rapport à l'investissement? Est-ce que vous êtes allé chercher du capital externe? Est-ce que c'est un autofinancement depuis le début? Comment que ça se déroule chez Fist présentement?
Ben, au départ, c'était tout autofinancé. Fait que les marges étaient quand même intéressantes de la vente en ligne pour essayer. À chaque fois qu'on vendait un t-shirt, on était capable d'en racheter deux, disons. Fait que, okay. Donc, comme ça, on continue à s'autofinancer jusqu'au jour où on a commencé à vendre en boutique. Fait que là, t'sais, nos unités sont passées de 10 000 unités vendues à la première année à 100 000 unités la deuxième année. Fait que là, comme tu as dit, ça prend des stocks, ça prend du staff. Mais non seulement ça, sauf que les termes de paiement sont différents aussi. T'sais, quand je suis en ligne, tu me payes avec ta carte de crédit. Puis on va appeler ça qu'on est en avant de l'argent. Fait que quand je suis en avant de l'argent, c'est-à-dire je reçois ton paiement et là, je peux payer mon monde qui vont produire. Versus une boutique où là, je produis, donc je dépense et je livre. Puis là, non seulement je vais recevoir l'argent dans peut-être 1, 2 ou 3 mois parce que leurs termes de paiement vont peut-être être 30 à 90 jours. Et en plus de ça, les marges sont beaucoup plus faibles parce qu'évidemment qu'eux doivent le revendre à un consommateur final. Fait que non seulement l'argent est plus long, ça prend plus de temps avant que je l'encaisse, mais aussi mes marges sont plus petites. Fait que ça crée une super grosse pression sur les liquidités. Jumelé à ça, j'ai besoin de plus de stock. Donc, au début, on fait affaire avec des revendeurs, après des grossistes, après des manufacturiers. Mais à chaque fois, oui, le prix unitaire du t-shirt baisse, mais la quantité minimum pour commander augmente. Donc là, je dois me commander des dizaines de milliers de t-shirts à la fois. Puis, OK, j'ajoute à ça que vu quand tu fais affaire à un nouveau fournisseur, ben là, lui, ses termes de paiement qui te demande sont plus serrés parce qu'il te connaît pas. Plus tu bâtis ta relation avec lui, plus il va te donner du lousse. Fait que là, d'un côté, il faut que je paye rapidement mon fournisseur avec plus de t-shirts que ce que je suis habitué d'acheter pour livrer une commande à une boutique qui va me payer moins cher que quand je vends en ligne et qui va me payer dans beaucoup plus longtemps que quand je vends en ligne. Fait que là, on comprend que les taux se resserrent. Donc là, on a besoin de financement. On passe par ce qui est des bourses, des prêts, marge de crédit et on a fait entrer un investisseur à ce moment-là, Alain Nollet, qui était chef des finances chez Lolé, aujourd'hui qui est dans le groupe Sky Spa, qui est toujours un mentor pour nous. Fait qu'il nous a vraiment aidé à structurer l'entreprise au niveau financier, au niveau opérationnel, qui nous a fait rencontrer un paquet de gens dans son réseau, que ce soit pour des trucs marketing, pour à peu près tout, en fait. Puis, un peu plus tard, ben, on a eu un autre investisseur qui s'est joint à nous, Christian Parent, qui, donc là, on peut compter sur l'aide de ces deux mentors-là.
Fait que vous avez un petit board maintenant là, qui est capable de vous aider puis de vous épauler dans des grosses décisions, des gens qui ont plus d'expérience. On s'entend, le CFO, corrige-moi si je me trompe pour le titre, chez Lolé, c'est une grosse entreprise qui en a fait du briquet mortier, là.
Ouais, exact. T'sais, lui, il était même au début chez Orage, ça le grossit. Oui, ce qui est impressionnant de ces personnes-là qui ont beaucoup de métiers, d'expérience, c'est un peu le calme face à des situations qui pour nous sont nouvelles puis sont peut-être stressantes, mais qu'eux ont vu des dizaines et des dizaines de fois. Puis, ben, on est chanceux d'avoir rencontré ces personnes-là parce que eux, ils ont une approche hyper humaine puis, tu sais, nous, c'est comme des pères, en fait, pour nous autres puis ils vont nous laisser nous casser la gueule des fois pour qu'on apprenne, ou ils vont être là pour nous supporter, pour nous challenger. Fait que oui, on a comme un petit board, mais c'est très informel, là. Tu sais, c'est très, on mange à la cafétéria, on discute, on s'appelle. Je dirais qu'avant tout, c'est des amis. Tu sais.
Je comprends. Puis je suis curieux à voir ces gens-là à l'intérieur de l'entreprise, Anthony, à quel point que tu as senti que ça vous a aidé peut-être à accélérer un peu votre croissance, parce que des gens qui, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils l'ont fait avant toi, qui arrivent, qui sont capables de dire ça va arriver, j'imagine que à un certain point, ça aide. Es-tu capable de nous parler de certaines situations aujourd'hui que de les avoir avec toi, ça t'a aidé à dire, oh boy, hey, une chance que j'avais lui qui m'a dit cette information-là, parce que sinon, ça nous aurait pris 3 ans trouver une solution à cet enjeu-là qu'on avait.
Ben, tu sais, une année, on prenait une direction de vouloir lancer des nouveaux produits. On s'est fait aider beaucoup, que ce soit par nous introduire des contacts dans le domaine, ou quand on a voulu commencer à vendre en boutique, ben rapidement, c'était un... Tu sais, le modèle wholesale de vendre dans un réseau de boutiques, c'était ça qui était le plus connu par avant pour des marques de vêtements. Fait que c'était un terrain de jeu vraiment... connu par Alain, fait que même par Christian, fait que ça a été vite qu'on est passé à 200 points de vente, que ce soit de nous introduire au bon rep, nous introduire aux bons acheteurs, nous faire comprendre la game, les cycles de ben faut que t'ailles à un show, tu montes ton catalogue, nanana, tu prends des PO, tout des trucs qu'on connaissait fuck all parce qu'on était en vente en ligne, là, tu sais, j'ai pas besoin de te booker, je te montre des poches, j'en sors une aujourd'hui, tu peux l'acheter, tu sais, fait que clairement que ça l'a accéléré, mais au-delà de ça, que ça soit comment se préparer pour rencontrer le banquier, pour négocier nos marges de crédit, il arrive des situations plus difficiles avec la fluctuation de main-d'œuvre, puis là, faut annoncer des licenciements parce que, bon, en novembre-décembre, j'ai besoin de 3 fois plus de staff qu'en janvier. Comment tu fais ça? La communication, le leadership. Fait que c'est une école de fou, là. Tu sais, t'apprends tous les jours avec ces personnes-là, puis ils te font pas sentir qu'ils ont la science infuse, là, qu'ils ont pas de leçons à te donner. Ils le font vraiment... en partageant leur expérience, puis en acceptant qu'eux aussi peuvent se tromper des fois. Fait que...
intéressant. Puis je suis curieux, bon, ils en ont vu des choses, ces gens-là, mais ils ont sûrement jamais vu une pandémie comme on a vécu. Ouais. Ça ressemble à quoi l'équipe chez Poche et Fils quand la pandémie frappe à nos portes?
Fils.
Parce que là, bon, faut se le dire, si vous étiez uniquement à ce moment-là un commerce en ligne, on s'entend, la dynamique est différente. Vous vendez en ligne, on l'a vu, il y a eu une augmentation fracassante des ventes en ligne dans la dernière année, mais là, vous êtes rendu à un paquet de points de vente. Automatiquement, bon, ces points de vente-là ne peuvent plus opérer parce que les commerces sont fermés. C'est quoi un petit peu la dynamique qui s'est installée de mars 2020, où puis là, on a enregistré le podcast, on est en mars 2021, donc ça fait un an maintenant. Comment que ça s'est déroulé la dernière année chez vous?
Ben là, même que je veux te ramener à 2019, on connaît la pire année financière de notre vie, OK? On a été profitable à toutes les années, puis là, on connaît des pertes de centaines de milliers de dollars parce que on avait investi plus à différents endroits, puis comme la majorité des résultats se passent dans le dernier quart, fait que dans les fêtes, où, t'sais, rien que le Black Friday, c'est 10%, rien que cette journée-là, c'est 10% de nos ventes en ligne, là, t'sais, fait que tout se joue là, puis finalement, ben, on n'a pas réalisé les objectifs qu'on désirait avoir. Par contre, on avait encouru beaucoup de frais, fait que bon, on est sur des pertes. commence l'année 2020, on a un plan en tête. On veut aussi se ramener à un modèle un peu plus en ligne, changer la proportion où là, on était 70% wholesale, 30% en ligne. On veut inverser ça pour revenir avec des plus fortes marges, contrôler l'expérience, être moins à la merci de ce cycle-là, d'aller dans des shows, partager des catalogues, etc. Donc là, on décide même qu'on dit comment qu'on pourrait encore plus contrôler l'expérience. On va ouvrir notre prod boutique à même notre atelier de production. Donc nous, on a un atelier de production qu'on loue déjà, puis nos bureaux sont là. Puis on voulait pas ouvrir parce que on se dit « Ah, ça va déranger quand les gens vont rentrer. » Puis tout, on travaille de là. Finalement, moi, j'étais convaincu que c'était une opportunité. On est aussi bien d'ouvrir en plein cœur de notre atelier, puis les gens peuvent venir puis nous rencontrer puis participer à un brainstorm puis s'asseoir là 5 minutes, on couvre sa poche puis il peut partir chez eux. Fait qu'on décide d'ouvrir le jeudi 12 mars.
Eh boy.
Pac, 18 heures plus tard, pandémie, confinement, on ferme. Fait que ça a duré 12 heures. À l'autre, on dit qu'on a battu Target au premier rang des boutiques qui ont duré le moins longtemps au Québec. Mais no hard feeling, Target, si vous nous écoutez. Mais ouais, c'est ça. Ça fait que ça a été challengeant, ça. Puis là, Christy, qu'est-ce que tu fais? On n'a jamais vécu ça. Comme tout le monde est confiné, qu'est-ce qui se passe? Là, nous, on budgétait pour peut-être $1 million en vente en boutique. Là, on recevra pas de commandes. Il y a plein de commandes qu'on a déjà reçues qui ont été annulées. Des commandes qui ont été reçues, qu'on a produites, puis finalement, a dû être annulé, même si... Fait que nous, on a encouru tous les coûts, là. J'irais juste à shipper la boîte de 3000 t-shirts. Finalement, la commande est annulée parce que tu peux les comprendre. Les boutiques, ils vont être fermées pendant 6 mois, là, tu sais. Pendant plus que 6 mois. Fait que là, on se rend compte. Moi, honnêtement, à ce moment-là, je voyais quand même noir. J'étais certain qu'on devait mettre la clé dans la porte. Ça faisait 5 ans. Puis là, j'étais comme, aïe, je peux pas croire que ça s'arrête de même.
Surtout que vous venez d'avoir une idée. Que vous avez
une année tough là en plus. Fait que là, je suis comme ça y est, man, c'est le coup de poing fatal, là, on se fait achever. Puis là, on se rend compte, une espèce de discussion avec mes associés, c'était pas la joie. Puis là, ben, on dit OK, c'est quoi qu'on fait? Fait que là, on tombe en mode cochon survie, fait qu'on coupe le plus de coûts possible. On passe de 24 employés à 4. On envoie tout le monde en maison, tu sais, on n'a pas le choix. Mais avec une transparence, la plus grande transparence possible en disant, écoutez, on sait pas ce qui s'en vient parce qu'à ce moment-là, tu sais pas. Tu sais, les annonces, ils sortent au compte-gouttes, là, tu sais. Fait que là, on dit, guys, on va venir au courant. Pour l'instant, c'est ça. Ça se peut qu'on puisse ramener des gens, pas tout le monde, qu'on puisse ramener des gens une journée, 2, 3 semaines, peut-être les chanceux, 5. On va voir. On coupe les dépenses, on demande des moratoires sur les remboursements des prêts, etc. Bref, encore là, accompagné par 2 personnes qui, tu sais, qui ont vécu des moments tough, puis qui nous ont aidés immensément à faire face à ça. Puis là, ensuite de ça, ben, on a vu vraiment... le leadership, le potentiel du leadership de Camille, mon associé qui est chef des opérations. Camille, ça fait plus que 2 ans, mais elle est rentrée comme chef de production, donc elle s'occupait de toute l'équipe de couture pour prendre de plus en plus de responsabilités, à devenir chef des opérations, gérer l'approvisionnement. Puis c'est même elle qui va prendre mon poste de DG dès avril prochain. Une super leader. Puis dans le fond, elle a dit, tu sais, c'est pas vrai qu'on va se faire abattre. On va montrer de la résilience. Puis en un mois, à travailler hyper fort avec les différents teams, on a réussi à lancer des masques. Fait que c'était une initiative menée par Camille à trouver, bon, OK, avec Mélissa pour développer les patrons, ensuite de ça pour faire le shooting, l'intégrer en ligne, pour trouver les fournisseurs de tissus, d'élastiques. Fait que on sort des masques, on en vend pas loin de 50 000 unités. Ça nous permet de sortir la tête de l'eau. On ramène presque toute l'équipe. Puis là, ben, s'ensuit des subventions gouvernementales au niveau des salaires qui nous aident beaucoup. De l'engouement pour les produits locaux et l'achat en ligne. Fait que qui fait qu'en sorte que on a une croissance de 50% de nos ventes en ligne, puis on a eu la meilleure année financière de notre vie l'an dernier. Fait que.
Wow!
Ouais, c'est assez capoté. C'est sûr qu'il y a un petit astérix à côté de ça parce que bon, des masques, on n'en vendra pas à vie. De l'engouement comme ça, tu sais, c'est comme c'est très éphémère, c'est unique comme comme moment. Puis malgré tout, tu sais, je l'ai dit en me réjouissant, mais tu sais, il y en a qui l'ont eu beaucoup plus difficile, puis nous on a tenu à aider, fait que sur la majorité de nos masques qu'on vendait ou par différentes initiatives qu'on a faites durant l'année, on a amassé pas loin de 35 000 $ qu'on a versé en dons, que ce soit à des fondations, des hôpitaux, à tel jeune, à Emma, Fondation Emma Québec, Desta, Black Youth Network, pour 3 points, Woodstock, bref. Plusieurs fondations qu'on a aidées parce qu'à ce moment, ben même encore aujourd'hui, oui, c'est une entreprise, mais on est des humains derrière ça, puis si on peut faire notre part du mieux qu'on le peut, on va le faire. Fait que ouais, fait que la COVID au départ, je dirais que c'était comme, ça a été comme revivre un début d'entreprise, là. Genre, ah, ouf, ouais. OK, on est à zéro, même on est à moins quelque chose, puis là, faut faire de quoi. Puis il y a du bon là-dedans, parce qu'autant que des personnes qui sont pas, tu sais, des particuliers qui ont pas d'entreprise se sont sans doute remis en question, j'aime-tu vraiment ma job, j'aime-tu pas ça, j'aime-tu, hey, je suis bien de la maison, hey, je suis bien quand je peux voir plus les enfants, etc. Ben autant qu'en tant qu'entrepreneur ou qu'en tant que professionnel, on s'est remis en question, puis là, hey, ces dépenses-là, c'était pas nécessairement, c'était pas nécessaire, hey, ça aurait dû être notre priorité. Puis tu vois, là, notre décision de switcher vers un modèle plus en ligne ou de revenir vers un modèle plus en ligne, mais il a juste été accéléré par la crise. Puis là, ben, on s'est concentré sur notre site à sortir un outil de personnalisation de poche où tu peux mettre la face de ton animal sur ta poche, qui est aujourd'hui 50% de nos ventes en ligne, un esti de coup de circuit, d'avoir lancé ça. Sérieux, c'est incroyable. Là. Ça, c'est encore une fois un projet, l'idée par Camille. Encore, quand je dis ça, toute l'équipe travaille derrière, mais c'est une achiever, c'est une résiliente. Et...
C'est-tu pour ça que t'as pris, parce que tu sais, on avait des discussions avant le podcast, tu me disais que cette année, t'allais déléguer ton poste de directeur général. Tu vas rester impliqué, je sais pas, chez FIS, mais avec peut-être plus un rôle d'advisor. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment là, à vouloir aller de l'avant en lui donnant là, les clés de la voiture?
Ouais, ben tu sais, en lui donnant, je pense qu'elle les a méritées. Là.
Ben oui.
Ben, tu sais, au début de la pandémie, moi, je me suis remis en question aussi. J'étais chez nous, puis je remettais à créer plus. Quand je dis créer, c'est soit écrire, que ce soit sketch, que ce soit joke, que ce soit concept publicitaire, à filmer des petits trucs. Puis je reprenais plus contact avec mon essence, je pense. Tu sais, moi, je fais de l'impro. Encore une fois, quand je te parlais du gars qui niaisait dans ses cours ou qui avait hâte à la prochaine présentation orale, ou même le marketing de chez Poche et Fils, tu sais, de quoi que avec la croissance, les rôles plus administratifs, plus de gestion, que tu perds un peu. Puis tu sais, je trippe sur tout ce qui est culture d'entreprise, je trippe sur management, je crois que j'ai un très bon leadership, je suis convaincu que l'équipe dirait la même chose, mais un, je pense que Camille est encore, c'est encore plus naturel et est encore meilleur que moi à le faire. Deux, c'est quelqu'un qui a soif de défis, de croissance. Puis là, je pense que c'était la suite logique. Puis trois, ben moi, en tant que créatif, ben j'avais envie d'accorder encore plus de temps à ça. Tu sais, on a la chance comme entrepreneur de créer notre job, de créer le contexte dans lequel on peut évoluer. Fait qu'il faut pas créer sa propre prison, je pense. Fait que là, ben moi, je me suis dit, regarde, je vais faire 3 jours semaine où je vais m'impliquer principalement au niveau créatif. Fait que avec Guillaume, à penser aux campagnes, à faire de la rédaction, à penser à des partenariats potentiels. Il va y avoir une portion aussi où je vais être avec Camille, tu sais, parce que je demeure président de l'entreprise, donc sur le conseil d'administration, mais aussi pour le volet stratégique. Fait qu'avec Camille, on continue à se challenger. Mais c'est elle qui va piloter l'entreprise au day-to-day. Puis ben moi, de mon côté, je vais offrir mes services de création de contenu à d'autres marques qui auraient envie. Là. Déjà, je commence à prendre des contrats à la pige, mais j'ai des plans futurs pour ça, plus d'envergure, mais pour l'instant, c'est ça que je peux partager.
Intéressant. Et je voudrais revenir un petit peu au point de vente en ligne, vente en succursale. Donc, tu as dit que déjà en début d'année, avant la COVID-19, c'était votre plan de bifurquer parce qu'il n'y avait peut-être pas nécessairement la rentabilité, la profitabilité rencontrée avec ces ventes en différentes succursales. Donc, automatiquement, bien entendu, avec cette vision-là, additionner à ça la COVID-19, vous avez fait beaucoup plus de ventes en ligne dans l'année 2020. Est-ce que ça reste la vision de Poche et Fils pour les années à venir de rester davantage en ligne ou vous voulez retourner considérablement dans les points de vente?
Je te dirais que le mot d'ordre, ça va être si on trouve que la marque fit dans la boutique puis qu'on peut avoir un mot à dire sur le présentoir ou l'expérience d'achat qui est faite, oui, et aussi à nous assurer que les termes de paiement sont intéressants. Tu sais, je pense à un Simons où c'est super intéressant de travailler avec eux. Si on a une belle relation depuis plusieurs années, puis c'est cool. Mais d'autres boutiques comme ça pourraient être intéressées par nos produits. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas de fermer la porte. C'est juste qu'à une année, on était bâti comme une équipe web, mais qui essayait de faire du wholesale. Fait que là, aller à des shows, préparer des boots, préparer des collections d'avance, c'était moins utiliser nos forces qui est beaucoup plus sur la spontanéité de réagir à ce qui se passe dans l'actualité. Tu sais, là, je pense à une poche, la meilleure poche du dernier mois, c'est une poche de c'est Tom Brady, mais avec une tête de chèvre pour The Goat. Puis on a sorti ça le lendemain du Super Bowl. Puis c'est notre meilleure poche dans le mois. Fait que, tu sais, si t'as un modèle wholesale où faut que tu prévois ça 6 mois d'avance pour avoir du booking, tu sais, ça se peut pas. Puis c'est pas joué sur nos forces. Nous, on peut imprimer une poche demain matin, tu sais. On veut vraiment rester flexible à ce niveau-là. Tu sais, c'est ça qu'on a comme force d'être une petite entreprise. Fait que, faut l'exploiter. Ouais, exact. Fait que non, le plan, c'est certainement pas de revenir à un modèle wholesale, mais encore là, s'il y a des boutiques ou des flagships ou même des opportunités de faire des pop-up ou d'aller dans des événements, ben oui, clairement qu'on veut le faire.
Je voudrais revenir, Anthony, sur ce que tu as mentionné par rapport à Camille, qui va devenir la nouvelle directrice générale de l'organisation dans quelques semaines de ça, là. On enregistre le podcast aujourd'hui au début mars 2021. Comment se déroule ce processus-là de délégation? Donc, bien entendu, tu as vu dans la dernière année, puis j'imagine que ça a dû être un peu, pardonnez-moi l'anglicisme, le trigger event, tu as vu le leadership qu'elle prend, elle a fait faire en sorte que l'entreprise était capable de générer de la profitabilité dans un produit qui n'existait même pas. Mm-hmm. Donc, c'est sûr et certain que toi, en tant que fondateur de l'entreprise, tu vois une employée autant impliquée qui a autant de leadership. C'est sûr et certain que ça doit te jouer un petit peu dans la tête. Mais par la suite, quand ta décision est prise, comment tu t'y prends pour se dire, OK, là, je vais te montrer c'est quoi un petit peu le rôle, les responsabilités que tu vas avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Ouais, ben déjà, plusieurs choses. Tu sais, moi, je m'étais dit, pour juger quelqu'un, ou en tout cas pour me faire une idée le plus claire possible, faut que j'attende de voir cette personne-là dans l'adversité. Parce que quand ça va bien, c'est facile. Quand ça va bien,
tout le monde est bon.
Exactement. Mais quand ça chie, là, c'est qui se lève, c'est qui se bat, c'est qui prend sur lui, mais puis qui apprend de ces erreurs-là, puis qui... Tu sais, Camille, c'est une personne hyper intègre. Il y aurait 99 personnes d'une salle qui pensent d'une façon, si elle n'est pas d'accord, elle va oser confronter puis le dire, tu sais. Puis, comment qu'on fait pour déléguer? Mais ça se fait naturellement parce que Camille, tu sais, t'as pas besoin d'un titre pour... Excusez s'il y a des petits sons, là, mais t'as pas besoin d'un titre pour faire preuve de leadership. Puis, bien elle tu sais, si tu demandes à n'importe qui dans l'équipe, ils vont te dire que Camille, elle est là pour le team, pour Poche et Fils. Elle va accepter de te challenger, de te pousser, d'exiger le plus de toi, mais tu vas toujours sentir qu'elle a ton back. Tu sais, ça va jamais lancer personne en dessous du boss. Fait que la délégation, elle a quand même été facile parce que tranquillement, ben elle prenait de plus en plus de place. J'essayais de l'impliquer le plus possible dans toutes les décisions stratégiques pour qu'elle soit au courant, que son leadership soit de plus en plus légitime. Elle aussi, de son côté, ben elle continuait à faire rayonner sa plus grande force. Puis, ben à demander, c'est juste naturel. Je dirais que là, on s'est dit que l'annonce allait être faite en avril, mais depuis le début de l'année ou depuis même le début de la COVID, qu'elle prend de plus en plus cette place-là. Fait que ça se fait naturellement. C'est sûr que j'ai d'autres associés à qui, j'ai présenté ça. Des gens qui la côtoient moins au day-to-day que moi, mais qui ils me font confiance, ils l'ont vu aller, ils lui font confiance aussi. Puis dans le fond, pour les rassurer, ce qu'on dit, c'est ben, « Regarde, Camille, c'est une grande leader, elle va être capable de... Elle connaît la business tant au niveau opérationnel que web, que marketing. » Puis ben moi je vais rester pour générer le plus d'idées créatives pour la marque. Fait que dans le fond, on a un peu le meilleur des deux mondes, puis en maintenant la soif d'évoluer puis d'apprendre puis de croître en chaque personne. Fait que ouais, je pense que c'est ça. Puis tu sais, avant tout aussi, c'était de m'asseoir avec elle puis de lui demander, tu sais, qu'est-ce que tu as envie de faire, si ça t'intéresse-tu, tu te vois-tu faire ça, si tu quelque chose que puis elle a pris le temps, on en a discuté à l'externe avec sa famille pis tout, puis t'as la suite logique. C'est vraiment c'est vraiment cool de vivre ça. Ouais, c'est pis t'sais, pour moi c'est un peu mon âme sœur business là. T'sais, on s'entend super bien, on comprend les forces de l'autre, on accepte quand que ok, là c'est à elle de prendre le micro, là c'est à moi, puis c'est plus un tandem là. Fait que c'est hyper cool.
Très intéressant. Je terminerai l'entretien, Anthony, sur des petites questions personnelles que je pose à tous mes invités de podcast.
Ouais.
Je prends la chance. Est-ce que tu lis un peu? Est-ce que tu lis?
Ah, je lis pas mal. Ouais, je lis.
Ah ouais, hein?
Je lis pas mal, pas mal. Ouais. J'ai noté quelques titres. D'abord, Building a Story Brand, qui est un livre sur...
Donald Miller.
Ouais, exactement. Sur comment... ben, c'est un peu le storytelling derrière une marque. Puis moi, c'est hyper... c'est quand même intuitif de notre côté, mais c'est des bons repères, des bons exemples. Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown, que j'adore cet auteur. J'ai allé voir ses TED Talks. Elle est vraiment, vraiment bonne. Elle parle de la place de la vulnérabilité. Puis nous, c'est hyper important... chez pas chez fils, que ce soit de se demander comment on va, une question aussi simple, mais où tu peux je répondre, ben, Chris, ça va pas, je suis stressé, ou hey, j'ai vécu telle affaire dans ma vie privée, ou ah oui, j'ai hâte, je suis content. Fait que, tu sais, comme employé, tu viens pas juste comme Patrick, ou comme JF, ou comme Gabriel, tu viens comme qui, avec ton rôle, tu viens comme humain qui a ses aspirations, ses ambitions, qui vit des trucs. Fait que, c'est important, surtout d'une entreprise créative où tu veux pas te sentir jugé quand tu vas amener une idée, quand tu vas oser.
Mm-hmm.
Sinon, il y a le livre Play qui est sur le jeu, dans le fond. Moi, je trippe sur ça, sur apprendre par le jeu. Encore une fois, en jouant, tu communiques, tu collabores, t'essayes. C'est pour le fun, fait que t'as pas nécessairement un mindset de résultat ou de dire la bonne affaire. T'as plus un mindset d'essayer. Fait que ça, j'adore ça. Fait que ouais, ça serait les livres que je suggère. Mais après, il y en a un paquet d'autres. Là, comme je te dis, j'en lis plusieurs. Des fois, il y en a qui sont pas... qui me parle pas.
Le livre de Donald Miller est excellent, là. Ouais, Building clairement. A Story Brand. Ce gars-là, il est proche du génie, là. Si tu penses à quelqu'un pour bien bâtir un message, tu sais, son slogan publicitaire sur son site web, là, c'est Creating a Message So People Listen. Mm-hmm. Lui, je peux te dire de quoi, quand tu regardes tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait comme œuvre, comme TED Talk, comme workshop qu'il a fait dans d'autres organisations, c'est assez exceptionnel ce que Donald Miller fait. Podcast maintenant, est-ce que tu en écoutes un peu?
Podcast, je dirais que j'étais parti un peu, mais pas tant. Sinon, tu sais, c'est sûr, moi, je trippe ce que j'ai dans mes écouteurs au quotidien. Récemment, je réécoutais les contes de Fred Pellerin. Je trippe sur cet artiste-là. Je trouve c'est tellement un bon raconteur. Le Patreon des Denis Drolet, Rince Crème, que j'adore, que je trouve hyper drôle. Sinon, le podcast de Jay Dutombe discute, c'est un bon ami, mais surtout un humoriste, un artiste, puis un hôte de ce podcast-là qui est vraiment, vraiment doué. Là. Jay, il reçoit un paquet de monde de différents domaines, puis il est capable d'aller chercher des super bonnes discussions. Il est articulé, il est engagé, il est top. Puis quelqu'un que je souhaiterais qu'elle ait un podcast, c'est Juliette Bélanger-Charpentier, une personne que vous pouvez suivre sur Instagram. Je pense qu'elle est une étudiante en victimologie, criminologie. Je connais pas nécessairement son background, mais elle publie un paquet de trucs hyper intéressants où elle vulgarise des concepts d'inclusion. Puis c'est hyper intéressant. Fait que si j'avais un souhait, c'est qu'elle ait un podcast un jour.
Intéressant. Puis je terminerai routine. Est-ce que tu en as une certaine... Est-ce que tu suis une certaine routine avant de travailler, après le travail?
Je dirais plus après le travail ou le soir. Là, moi, j'ai de la misère à décrocher. J'ai un cerveau qui demande beaucoup de... qui cherche la dopamine sous tout genre. Donc, limiter les écrans, limiter... je suis sobre aussi de toute substance depuis plus d'un an. Fait que ça, c'est bon, mais parce que tu sais, il y en a qui c'est une routine pour le matin se lever puis être efficace. Moi, le matin, dès que j'ouvre l'œil, je suis en mode go. Là. Fait que si j'ai pas besoin de ça, c'est le soir. Faut que ma tête arrête de penser. Faut pas que je me réveille d'ennui pour prendre des notes, prendre mon téléphone, puis asti, on va faire ça demain, puis nanana. Fait que là, en ce moment, c'est d'essayer des affaires qui vont favoriser mon sommeil, comme couper les écrans, m'étirer, lire, boire du thé. Ça paraît banal pour bien du monde, mais pour moi, ça, en ce moment, je travaille là-dessus parce que sinon, tu sais, je dormirais pas, là. Fait que c'est ça ma petite routine que j'essaie de maintenir. Le sport, c'est hyper important, là. C'est plus difficile, hein, pendant la COVID. Ça fait chier un peu, mais... on va bientôt finir par sortir, j'imagine. Je nous le souhaite.
On arrive à la fin, là, ouais.
Yes. Toi, t'as-tu une routine?
Ah, moi, j'en ai...
Regarde, sûrement que les autres invités te l'ont pas posé, mais moi, je veux connaître tes trois livres puis ta routine.
OK, bon. Mes trois livres, ça, c'est une bonne question. De un, je commencerai avec... As-tu déjà lu le livre, Anthony, de Dale Carnegie, How to Win Friends and oui. Influence People?
Oui, oui, ben oui. Ça, c'est comme une bible, tu dis lire, mais tu le relis, puis tu le relis, mettons.
Exact. C'est un livre que tu lis quand t'es jeune, quand t'es moins jeune, puis tu lis pour le reste de ta vie. J'ai été fasciné par un livre qui s'appelle Le Build to Sell, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui expliquait un petit peu un des enjeux qu'un de ses amis avait par rapport à la construction de son entreprise pour mettre de la valeur autour de cette organisation-là. Je trouve que le livre est parfaitement écrit.
T'as fait un de mes amis de William de Case Me, exact. Je sais pas si tu connais l'entreprise.
Ouais, je connais un peu, ouais.
Où il personnalise des études téléphone. Il m'en a parlé récemment.
Je te le conseille. Si tu veux... Puis c'est même pas un livre pour nécessairement vendre ton entreprise, mais c'est un livre pour créer de la valeur autour de ton entreprise. C'est excessivement bien fait. Puis un autre livre également qui a marqué grandement mon esprit, c'est un livre qui s'appelle Profit First, qui est un livre qui est... également fait sous forme d'histoire, mais qui est très intéressant, qui est basé sur un concept. C'est que souvent, une organisation, hein, on a des métriques un petit peu de vanité. Là. C'est-à-dire, on fait plus de chiffre d'affaires. Puis finalement, tu te rends compte qu'à un certain point, c'est beau faire du chiffre d'affaires, mais ce qui reste, du profit. Puis le concept derrière Profit First, c'est qu'au lieu de uniquement se concentrer sur l'évolution constante du chiffre d'affaires, on s'en préoccupe, c'est bien important, mais on met toujours les profits en premier. Donc, lui, il change l'équation, OK? Donc, au lieu de se dire vente moins dépense égale profit, OK? Il fait vente moins profit, ça va donner les dépenses qu'on est prêt à avoir. Donc, en gros, à chaque mois, avant même de savoir ça va être quoi les coûts qu'il va avoir au niveau de son organisation, il dit, peu importe, là, OK, on fait 100 000 $ de chiffre d'affaires ce mois-ci. Moi, je veux une entreprise qui me donne au moins 15 % de marge de bénéfice net. Fait que j'enlève 15 000 déjà à l'équation. Fait qu'il reste 85 000 avec quoi qu'on peut jouer. Et ça, c'est l'idée globale. Bien entendu, par la suite, il y a des nuances. Mais peu importe ce qui se passe, tu places de l'argent dans un compte qu'on appelle un compte profit. Et ça, tu le fais à une fréquence, on va dire, chaque semaine. OK? Donc, une fréquence hebdomadaire. Et ce que ça fait, c'est que tu grandis ton chiffre d'affaires et qu'elle a à la fin du mois, sans que tu t'en rendes compte, oh, t'as un compte profit qui a peut-être 10 000 $ à l'intérieur de ça, que t'aurais peut-être jamais eu si t'étais retourné à la bonne vieille école de te dire, bon, combien qui reste à la fin du mois, c'est ça le profit qui reste. Donc, ça, c'est un concept qui avait marqué mon esprit puis que j'ai mis à l'intérieur de mon organisation puis ça l'a changé ma manière de voir les choses. Puis, ben, routine, oui, effectivement, j'en ai beaucoup des routines. J'aime ça me lever tôt. Je fais beaucoup de sport le matin, beaucoup de méditation aussi.
Ouais, hein?
Tu penses à peut-être des manières de mieux dormir. As-tu testé la méditation? Ça peut être...
J'ai eu la difficulté à l'intégrer dans ma routine, mais tu sais, j'en fais avant le sport ou avant, mettons, une présentation ou une conférence à donner. Mais ouais, je crois que ça... T'as raison, je devrais l'essayer. En fait, je viens d'acheter un livre pour apprendre à... La méditation, mais pour les adultes TDAH. Donc, moi, j'ai été récemment, en fait, diagnostiqué ça parce que c'était quelque chose qui, évidemment, j'avais des soupçons, mais j'étais allé faire valider ça. Bref, histoire courte, c'est de la méditation, mais active, genre. Un peu différente. Peut-être que ça va me rejoindre plus, je t'en parlerai.
Ben oui, why not? Parce que c'est ça qui change tout. Hein. Moi, je trouve que du moment que j'ai commencé la méditation, il y a peut-être 4 ans de ça maintenant, j'en fais une vingtaine de minutes chaque matin. Là, ce que ça fait, c'est que ça crée une addiction. C'est-à-dire que si je commence à travailler puis j'ai pas médité, on dirait que mon cerveau il part dans tous les sens puis je suis pas capable d'avoir un focus précis sur les choses que je dois accomplir. La méditation avant de travailler, moi, ça l'a vraiment été un gros game changer, on va dire ça ainsi. Puis il y a d'autres personnes que je connais qui le font le soir, donc peut-être tu vas pouvoir le tester juste avant de dormir.
Wow.
Mais regarde, Anthony, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été fascinant d'apprendre l'histoire de Poche et Fils. Et merci, tu as parlé de vulnérabilité. Merci d'avoir quand même montré de la vulnérabilité. Tu nous as parlé des années 2019 et un début 2020 qui n'était pas tout rose. Je suis fier de voir que vous avez été capable de remonter la pente puis d'avoir une année qui a été record, on va dire ça comme ça, en 2020, hein? Puis peut-être qu'on fera un podcast dans les prochains mois où est-ce que tu nous diras comment ça s'est déroulé de déléguer ce poste de directeur général-là. Quand c'est ton bébé, ça doit pas être facile, mais j'ai hâte peut-être que tu m'en dises un peu plus.
Ouais, mais j'ai hâte aussi. J'ai hâte de voir Camille évoluer puis être sur le terrain à la position qu'elle mérite. Puis peut-être qu'on pourra jaser aussi de mon autre projet.
Ben
merci,
oui.
Merci Antoine d'avoir pensé à Poche et Fils, d'avoir pensé à nous autres. C'était vraiment cool comme discussion. Puis j'espère que les auditeurs auront tiré quelque chose de ça.
Ah, effectivement. Mais je suis certain qu'ils vont avoir aimé. En tout cas, du moins, moi, j'ai bien aimé la conversation. Donc, Anthony, merci encore. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de discuter avec Anthony aujourd'hui. Un peu comme Nicolas Héré l'avait fait lors de l'épisode 37, j'ai grandement apprécié l'humilité transposée par Anthony qui nous a livré les hauts et les bas que peut vivre un entrepreneur. C'est également intéressant de comprendre le cheminement qui l'a poussé à laisser sa place de directeur général de l'entreprise. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour Hypercroissance en créant des pages totalement séparées à J7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.